journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On a pu lui dire au revoir, il est parti avec le sourire. Voilà ce que disent les proches de ces Français qui ont choisi l'euthanasie en Belgique ou encore aux Pays-Bas. En Hollande, de plus en plus de personnes optent pour cette mort encadrée. Plus de 7000 l'an dernier contre 1880 il y a 20 ans.
Alors en France, peut-on imaginer une telle aide active à mourir? Faut-il changer la loi sur la fin de vie? Le débat est de nouveau ouvert.
Oui, dès aujourd'hui, une convention citoyenne qui réunit 173 Français tirés au sort va plancher sur cette question. Chaque week-end jusqu'en mars, ils rencontreront des experts, soignants, religieux, élus, pour entrevoir toutes les nuances de ce sujet délicat. Une question chère à Emmanuel Macron qui a tenu à relancer le débat. Mais il reste très flou, Jacques Serret, le chef de l'État, sur ses intentions.
Oui, Emmanuel Macron semble comme perdu face à l'immensité des questions que posera une nouvelle législation. Chacune de ses déclarations, tant elle diffère en fonction des circonstances, laisse entrevoir le doute. En mars dernier, deux semaines avant le premier tour, le président candidat se disait ainsi favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge, autrement dit la dépénalisation de l'euthanasie. Six mois plus tard, en septembre, même son de cloche, on le fera. La loi, ce sera en 2023, promet le président réélu Aline Renaud, militaire de cette cause. Mais deux semaines plus tard, changement de pied radical, le locataire de l'Élysée assure qu'il n'a pas de modèle en tête, qu'il n'a pas de position officielle. Après un déplacement au Vatican et un échange avec le pape François, Emmanuel Macron confie d'ailleurs ses interrogations. « Ma mort m'appartient-elle ? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. » Tenter d'apporter des réponses. Ce sera donc la mission des 150 citoyens tirés au sort, mais rien ne dit que le chef de l'État suivra leurs préconisations.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Autre débat qui fait grincer des dents, les retraites. Emmanuel Macron maintient l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Elisabeth Borne l'a confirmé hier aux représentants syndicaux qui ont déjà promis une mobilisation sociale déterminée au mois de janvier. D'ici là, la première ministre doit détailler le futur projet de loi mercredi prochain. Notez qu'avec un départ à la retraite à 65 ans, la France réaliserait 32 milliards d'euros d'économies à horizon 2035. Et des économies, elle en a bien besoin. La dette française s'élève à 3 000 milliards d'euros et elle va encore se creuser. Car même si Emmanuel Macron a officiellement sonné la fin de l'abondance et du quoi qu'il en coûte, eh bien la France est coincée dans un cercle vicieux. Pour payer sa dette, elle doit encore emprunter. Et l'an prochain, ce sera un prêt record, Baptiste Morin.
Oui, 270 milliards d'euros, soit 10 milliards de plus qu'en 2022. Cette année, la France sera l'année prochaine le pays de la zone euro qui émet le plus de dettes. François Eckal, président du site de référence sur les finances publiques Fipeco, explique ce qu'il y a dans ces 270 milliards d'euros.
Il y a d'abord le déficit de l'année 2023 qu'il faut financer en empruntant. Ça, c'est de l'ordre de 130 milliards. Et puis aussi, il faut emprunter pour rembourser les emprunts passés qui viennent à échéance.
L'État emprunte plus et ça lui coûte plus cher. En 2020 et 2021, il avait profité des taux négatifs. En clair, il remboursait moins que ce qu'il empruntait. Mais ça, c'est désormais terminé. Cette année, le taux moyen était de 1%. Et donc, la charge de la dette, les intérêts à rembourser augmente également, 35 milliards d'euros en 2021, plus de 50 milliards d'euros cette année. Et l'Institut libéral IFRAP estime à 100 milliards d'euros la charge de la dette en 2027.
Baptiste Morin.
En bref, des centaines de... 125 000 Parisiens, pardon, dans le noir durant plusieurs heures hier soir, mais ce n'était pas un délestage.
Oui, effectivement, 125 000, vous avez raison, clients d'EDF ont dû s'éclairer à la bougie après un incident technique sur un transformateur électrique. La plupart des foyers, heureusement, ont été réalimentés avant minuit.
À propos d'électricité, bravo, nos efforts payent, moins 10% de consommation en novembre.
Et l'appel à la sobriété a été entendu. EDF avait envoyé 50 millions de courriers à ses abonnés pour les sensibiliser. L'électricien national qui compte, il faut le préciser, 70% des ménages français et près de 60% des entreprises.
8h05 sur Europe 1, actu européenne. Oui à la Croatie, non à la Bulgarie et la Roumanie. L'Autriche a tranché hier.
Vienne a posé son veto à l'entrée de Sofia et Bucarest dans l'espace Schengen. Elle redoute en fait que la levée des contrôles aux frontières entraîne une augmentation du nombre de migrants dans le pays. Sujet qui divise les Autrichiens. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Vienne, Wilfried de Villers.
Christophe voit d'un bon œil la décision du gouvernement autrichien.
Ce n'est pas une bonne solution d'intégrer ces pays à l'espace Schengen. De nombreuses personnes viendraient ici pour trouver du travail, pour se faire de l'argent et repartir ensuite le dépenser ailleurs.
Dans un pays où près d'un quart de la population est issue de l'immigration, le veto du gouvernement est difficile à avaler pour Lisa, d'origine iranienne.
C'est une position injuste pour la Roumanie et la Bulgarie. Parce que l'Autriche a de la chance d'être au centre de l'Europe et de ne pas partager de frontières avec des pays moins bien développés économiquement.
C'est pourtant bien la hausse de l'immigration irrégulière qui a poussé le gouvernement de centre-droite à dire non à Bucarest et Sofia. Mais la porte n'est pas totalement fermée, assure Lukas Mandl, eurodéputé. Il est membre de la majorité autrichienne.
Je n'appelle pas ça un veto, mais un report. On ne peut pas prendre cette décision à l'heure actuelle parce que nous faisons face à une importante crise migratoire et elle s'intensifie.
Voilà plus d'une décennie que la Roumanie et la Bulgarie frappent à la porte de l'espace Schengen.
Wilfried de Villers depuis Vienne pour Europe 1.
Je ne vous oublie pas.
Voilà, ne nous oublie pas jamais, Céline. Céline Dion a encore reporté les dates de sa tournée européenne hier. Hein.
Bonjour à tous. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais « stiff person syndrome ». Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. Je vous aime tellement et j'espère très très fort pouvoir vous revoir bientôt.
Céline Dion bouleversée, le trouble dont elle souffre, c'est le syndrome de la personne raide. Qu'est-ce que c'est exactement? On a voulu vous l'expliquer sur Europe 1 ce matin avec le tuto de la rédaction signé Louise Douillet.
Le syndrome de la personne raide provoque des raideurs et des spasmes musculaires qui peuvent survenir à tout moment. Un bruit soudain ou un contact physique suffit à les déclencher. Et si le patient n'est pas pris en charge, il risque d'éprouver des difficultés pour marcher ou pour effectuer des tâches du quotidien. En général, ce syndrome est diagnostiqué aux alentours des 45 ans. Et il affecte davantage les femmes que les hommes. C'est une maladie extrêmement rare qui touche une personne sur 1 million et dont les causes restent inconnues. Les spécialistes pensent qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Il n'existe pas de traitement pour cette pathologie. Il s'agit simplement de soulager les symptômes au moyen de quelques médicaments, mais surtout d'étirements, de massages, d'acupuncture ou encore d'aquathérapie.
Louise Douillet.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'actu, c'est tous les matins dans votre journal de 8h.
Allez, on met les combinaisons, on attache les ceintures, direction les étoiles.
3, 2, all engines running.
Nous approchons déjà la Lune, là, Dimitri. Je vois les cratères éclairés par le Soleil. C'est magnifique. Hein. Dire qu'il y a quelques jours à peine, la capsule Orion a fait le tour de notre satellite et qu'elle revient sur Terre dans à peine 2 jours.
Voilà, sommes-nous à l'aube d'un nouvel âge d'or spatial. Vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée. Nous avons la tête dans les étoiles.
Et les pieds sur la Lune. L'homme espère y retourner d'ici 3 ou 4 ans. Mais pourquoi? Pourquoi veut-on retourner sur la Lune 50 ans après les missions d'Apollo lors d'Autriche?
Le premier objectif est politique. La Chine a l'ambition d'explorer la Lune, les Indiens s'y intéressent, les Américains veulent rester leaders et donc occuper le terrain. L'autre grand objectif, explique l'ancien astronaute Jean-François Clairvoy, c'est d'utiliser la Lune comme un banc d'essai avant d'envoyer des humains vers Mars, dont le voyage prendra au moins 9 mois.
La Lune, elle est à proximité. On peut ramener tout de suite des astronautes en cas d'urgence. C'est pour apprendre à faire ce qu'on aura à faire un jour quand on ira vers Mars. Vivre dans un environnement de régolithes et de poussière très abrasive. Entretenir, réparer, maintenir un habitat sur un autre corps céleste et en orbite d'un autre corps céleste, sur la Lune, on sera soumis aux mêmes radiations que sur Mars.
En 2024, des astronautes tourneront autour de la Lune. On remarchera sur la Lune sans doute en 2025. Et le Français Thomas Pesquet fait partie des candidats sérieux pour y aller.
Lord d'Autriche, spécialiste spatial d'Europe.
Et n'oubliez pas, 8h40 ce matin, c'est Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute française, choisie parmi les 5, la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne. La première promo quand même depuis 2009, c'était Thomas Pesquet à l'époque. Eh bien, Sophie Adnaud a choisi Europe 1 pour faire ses présentations. Je pense que vous allez l'adorer. Soyez là, ce sera à 8h40. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup Fanny Marceau. Tiens, on a oublié de parler de la Coupe du Monde. Je vous le dis rapidement. N'oubliez pas, quart de finale, ça commence aujourd'hui. Brésil-Croatie à 16h. Argentine-Pays-Bas, ce sera 20h. Et évidemment, France-Angleterre demain. Mais on en reparlera évidemment dans la journée sur Europe 1. 8h40.